chanson, c'est peu de choses.
Radio Grand Ciel présente Si on chantait, avec les grandes voix de la chanson française. Une émission créée et réalisée par Gilles Secase et Patrick Durand, avec à la technique Claude Casal et au micro Christiane Blain. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série consacrée aux grandes voix de la chanson française avec un artiste incontournable, Yves Montand, un monument de la chanson française à l'honneur pour cette nouvelle émission. Yves Montand, issu du music-hall, qui aura su conquérir le monde entier avec des chansons, je dirais, extrêmement populaires. Il est chanteur, acteur, militant, séducteur. Il a endossé tous ses rôles. Il a été un des rares artistes à créer un répertoire légendaire en l'espace de 10 ans. Pourtant, il semble encore réduit à quelques chansons intemporelles. C'est oublier les dizaines de petits chefs-d'œuvre de Prévert, Cosma, et les autres.
Yves Montand vient de la famille Livy, issu d'un milieu modeste, militant, qui fuit le sud de l'Italie pour échapper au fascisme. Et la famille Livy arrive en France, dans les collines de Marseille, alors que le jeune Ivo est âgé de 2 ans. Et à 13 ans, devenu Yves par la grâce de la naturalisation, le jeune Ivo passe son CAP de coiffeur, mais se passionne davantage pour le cinéma et ses idoles, comme Fred Astaire, Gary Cooper, et il n'hésite pas, entre deux coupes, à fredonner les refrains de Charles Trenet ou de Maurice Chevalier, ses modèles.
Alors, Yves Livy, en 1938, a d'abord travaillé en usine. Il frappait des tôles, qui est assez éloigné quand même de la chanson populaire. Il est engagé, puisqu'il chante quand même dans sa salle de bain, il est engagé dans le café-concert du quartier comme chauffeur de salle. Et puis il parvient à monter sur scène pour s'exprimer, et puis il se fait apprécier du public local, en imitant les grandes vedettes du moment, qui sont Charles Trenet, Fernandel, Maurice Chevalier. Il prend alors le nom d'Yves Montand, avec un T final, en souvenir de sa mère qui l'interpellait de sa fenêtre en criant, en italien, « Ivo, monta !» Nous allons écouter les premières imitations d'Yves Montand.
Alors j'ai mis 3 chansons au point. Il y avait une chanson de Charles Trenet, il y a une chanson de Chevalier, et au milieu il y avait l'imitation de Fernandel aussi, et je terminais avec Boum de Charles Trenet.
Ah, si vous connaissiez ma poule, vous en perdriez tous la boule. Ces petits seins pervers qui pointent au travers de son pullover vous mettent la tête à l'envers. Elle a des jambes faites moules et des cheveux fous frisés partout et tout. Si vous la voyez, vous me la chipperiez. Ah, oh, vous connaissiez ma foule.
C'est une imitation assez intéressante.
C'est intéressant, c'est un document qui date de 1953. C'est extrait d'une émission qui était une émission reine à l'époque à la radio qui s'appelait La joie de vivre. Et l'émission d'Henri Spad, Jean Nohain. Et c'est Montand lui-même qui raconte ses débuts, tout simplement. Alors le jeune Montand, avec un T, prend des cours de chant et son premier compositeur parolier, Charles Hummel, lui écrit « Dans les plaines du Far West » pour répondre à l'intérêt du chanteur pour les westerns. Et c'est avec cette chanson qu'il se lance en 1939 à la conquête de l'Alcazar de Marseille, le temple phocéen du music hall. Et le succès n'est pas immédiat et Yves Montand, toujours avec un T, doit retrouver les chantiers Métallo, Docker, à la Joliette. Et nous écoutons dans les plaines du Far West.
1945.
Vient la nuit. Les cow-boys près du bivouac sont réunis. Ils fredonnent au son d'un harmonica une vieille chanson de leur beau Texas. Et leur chant est les pétait par l'écho syncopé, par le rythme d'un banjo dans les plaines du Far West quand vient la nuit. Les cow-boys près du bivouac sont réunis. Sur leurs grands chevaux, ils jouent du lasso, yaho, bing-bong, bing-bong, rien n'est pour eux plus beau. Sous le soleil qui leur brûle la peau, yaho, crânement ils vont sans trêve ni repos. Qu'ils soient de New York, de Chicago, ce sont tous des as du rodeo dans les plaines.
Pourtant, en 1941, sa carrière décolle et Montand écume la région avec son nouvel imprésario parisien, Émile Audifray. Le chanteur prend des cours de danse et met au point son célèbre chaloupé. En 1944, après avoir échappé de justesse au STO, il va monter à l'assaut de la capitale. Sans veste ni cravate, Montand trouve ses marques et fait un tabac à l'ABC, à Bobino, puis au Moulin Rouge, où il rencontre Édith Piaf. Le coup de foudre est réciproque.
Alors Édith Piaf, qui a été une découvreuse de talent, à la fois une découvreuse d'amour, mais une découvreuse de talent. Elle fait répéter Montand sans relâche, elle lui écrit des chansons, elle devient son Pygmalion. En 1945, ils tournent ensemble dans « Étoiles sans lumière » de Marcel Blisten. Ils partagent ensemble l'affiche du théâtre de l'Étoile et le chanteur alors séduit les foules et le cœur des jeunes femmes avec son répertoire réaliste. Alors dans le répertoire réaliste, il y a Battling Joe, Luna Park, les grands boulevards. Dans le cadre de ces chansons réalistes, nous allons écouter
Ma gosse, ma petite môme, 1946.
Maman, ma petite gosse, on va faire la noce, je t'amène en carrosse jusqu'à Robinson. Vas-y, fais-toi belle, sors tes ribambelles de blanche dentelle en point d'Alençon. Le soleil se bacnaude, il y a des valses qui rôdent sur des airs d'amoureux. Et à ton cœur qui bavarde, je lui paierai une cocarde en passant par Neneu. Ma gosse, ma petite môme, y a des prés qui chaument, des lits qui embaument pour y faire l'amour.
1946, c'est précisément l'année où Montand se dirige vers le cinéma pour tourner « Les portes de la nuit » de Marcel Carné et Jacques Prévert. C'est un échec commercial et le chanteur se jette à corps perdu dans les galas, les tournées, les conquêtes. Alors, rappelons quand même que pour « Les portes de la nuit », c'est un échec commercial, mais il reste quand même quelque chose dans ces années-là de ce merveilleux film. C'est une chanson de Prévert et Cosma, « Les feuilles mortes ». Montand n'y croyait pas, il ne va pas être le premier à l'enregistrer, nous en reparlerons. Le couple Piaf-Montand n'y survivra pas et en 1947, il engage le pianiste Bob Castella avec qui il collaborera pendant 40 ans. Et Jacques Prévert lui présente le guitariste de jazz Henri Crolla qu'il suivra jusqu'à son décès en 1960. La rencontre avec Henri Crolla est déterminante, il compose les musiques de Sanguine ou le Sieur de souliers de Broadway, du sur-mesure pour Montand. Il faut également souligner la collaboration de Francis Lemarque, le génie à Paris, qui complète la fine équipe. Yves Montand fait alors sa rentrée à l'automne 1949 à l'Étoile, sous les ovations du public.
Voici pour illustrer ses propos l'une des chansons qu'interprètent Montand et Crolla dans l'un des quatre sketchs du film de Christian Jacques, Souvenir perdu.
Tous les jours de la semaine, en hiver, en automne, dans le ciel de Paris, les cheminées d'usine ne fument que du gris. Mais le printemps qui s'amène, une
une fleur sur l'oreille, au bras une jolie fille. Tourne seul, c'est le nom de la plaine. Le surnom de la fille, elle n'a pas de grand nom, pas de nom de famille. Et dans ce coin des rues, à Belleville, à Séville, tourne seul. Voilà ceux des coins des rues. Et les beaux jours.
C'est Henri Crolla qui met Yves Montand en présence de l'actrice Simone Signoret.
C'est amusant, Christiane.
Oui.
Simone Signoret connaissait Henri Crolla pour avoir fréquenté pendant la guerre les mêmes lieux de perdition qu'étaient les restaurants de Saint-Germain-des-Prés, en tout cas les terrasses des cafés de Saint-Germain-des-Prés. Et Simone Signoret connaissait bien Henri Crolla et connaissait également la femme d'Henri Crolla qu'elle avait l'habitude d'appeler Crolette.
Ah bon ?
Colette Crolla.
Ah,
oui, c'est très intéressant.
Alors ce nouveau soutien va lui donner des ailes et c'est alors qu'il ose le premier one-man show français à l'Étoile. Le spectacle qui comprend 22 chansons, 2 poèmes est vraiment un triomphe. Montand fait de nouvelles tentatives au cinéma, mais ce sont ses talents de chanteur qui attirent les spectateurs du monde entier. Kirk Douglas, Gary Cooper, et lors d'un récital qu'il mène durant 6 mois à guichet fermé, entre 1953 et 1954, il y livre, je dirais, une conscience nouvelle, antimilitariste. On peut penser au Dormeur du Val, de Francis Lemarque. Alors, il impose une chanson qui deviendra absolument un standard, Les Feuilles Mortes, signée Jacques Prévert et Joseph Kosma.
Les États-Unis sont pourtant assez méfiants, surtout pour les communistes, dans cette période de guerre froide. Mais ils ne résistent pas au charme du chanteur français, et Montand est invité à se produire au théâtre Henri Miller à New York. Et il s'y produit en septembre 1959. Dans la grande salle, on remarque Marlène, la grande Marlène, Marlène Dietrich. On remarque Lorraine Bacall, une de mes préférées au cinéma. Et surtout Marilyn Monroe. L'enthousiasme du public est délirant. Il y a 16 rappels. Son passage à la télévision au show de Dinah Shore, qui rassemble 60 millions de téléspectateurs, attire les producteurs de la Century Fox. Il retrouve Marilyn devant la caméra de George Cukor pour le film Le Milliardaire. Son tour d'Amérique est salué par des standing ovations et Montand occupe le Golden Theatre de Broadway pendant 8 semaines, puis s'envole pour des tournées à travers le monde.
I'm a set up for the moon when it's bright. I'm incurably romantic. And I shouldn't be allowed out at night with anyone quite like you. But oh, your arms are nice, and they would be awfully nice if you turned out to be starry-eyed like me and incurably romantic too. My heart is off on wings, along with my senses. I'm a set up for the moon when it's bright. I'm incurably romantic. And I shouldn't be allowed out at night with anyone quite like you.
But oh, your arms are nice, and it would be awfully nice
if you turned out to be starry-eyed like me and incurably romantic too.
Gilles, tu vas nous présenter ce petit extrait avec bien sûr l'incroyable Marilyn avec sa voix un petit peu particulière. Gilles.
Incurably Romantic, donc, est un des numéros du film Le Milliardaire de George Cukor. George Cukor qui venait de s'essayer pour la première fois à la comédie musicale. C'est une réussite. Qui ne résisterait pas au charme de Marilyn Monroe notamment dans son numéro My Heart Belongs to Daddy. Et évidemment, Yves Montand a succombé. On a beaucoup parlé, la presse en a fait ses choux gras, et l'affaire est réglée. Et dans les milieux de 1960, dans les années 1960, marquées par la vague yéyé, Montand se consacre essentiellement au cinéma. En 68, il retrouve l'Olympia et traîne avec succès des chansons au doux parfum de nostalgie, comme « À bicyclette » de Pierre Barou. Et la décennie suivante, Montand envahit le grand écran, mais ne se produit plus sur scène. Le grand retour de 1981, après 13 ans d'absence, Montand retrouve la scène en octobre 81 à l'Olympia avec de nouvelles chansons, comme « Les Roses de Picardie », « Duke Ellington ». Le public impatient ovationne son show. Seul en scène, un chapeau, une canne, une chaise, sa présence est intacte, à 60 ans, presque magique. Sa voix de velours est inaltérée, sa gestuelle toujours envoûtante, et son numéro de claquette fait chavirer la salle. Les 3 mois à l'Olympia sont suivis d'une tournée en France et dans le monde, à Rio, à San Francisco, à New York, à Tokyo, sans doute le plus grand triomphe de Montand, mais aussi son dernier au Music Hall. Pour la petite histoire, il faut se rappeler que Montand n'avait pas tout à fait le sens du rythme. Il avait une voix superbe, mais pas le sens du rythme. Et il était obligé de travailler énormément chaque geste, chaque numéro avec son orchestre. Il se retrouvait à l'époque de Crolla, de Castella et des autres, de Soudieu. Il se retrouvait dans la propriété de Signoret et de Montand à Auteuil, en Normandie. Et il passait des moments peut-être exténuants, mais de répétition qui lui étaient imposés par ce manque de rythme. Un très grand travailleur.
Oui, en sachant quand même que les pianistes sont là pour récupérer les fautes des chanteurs.
C'est sûr, mais il n'y avait pas que les fautes
dans
la métrique, c'était le geste également, oui. Les claquettes et tout ce qu'elle avait avec. Moi, j'ai eu la chance de le voir au Théâtre de l'Étoile. J'étais enfant à l'époque, mais c'est un souvenir exceptionnel. C'était une bête de scène, réellement. Nous allons écouter Yves Montand en 1981 à l'Olympia, chantant sur un poème d'Aragon et une musique de Léo Ferré, L'étrangère.
Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août. Ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire. On danse en frappant dans ses mains. On n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, gai sans un sou vaguement gris, avec des fleurs pleines les charrettes, son destin dans la paume écrit. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait des yeux d'outre-mer, elle en montrait la déraison. Elle avait la marche légère et de longues jambes de fond. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Celle-ci parle vite, vite, de l'odeur des magnolias.
Sa robe tombe à tout de suite quand Matt la délia. En ce temps-là, j'étais crédule. Un mot m'était promission. Et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion. Quand c'est fini, tout recommence. Toute musique me séduit. Et la plus banale romance, mais l'éternelle poésie. Et nous avions joué de notre âme un long jour, une courte nuit. Puis au matin, bonsoir madame, l'amour s'achève avec la pluie.
Alors, le 8 septembre 1982, le Metropolitan Opera de New York ouvre ses portes pour la première fois à un artiste de variété. C'est vraiment, je peux dire, l'ultime consécration. Montand obtient également un énorme succès au cinéma avec le rôle du Papé dans Jean de Florette en 1985 et Manon des Sources en 1986 de Claude Berry. À la fin des années 80, Yves Montand envisage entre deux tournages de revenir à la chanson. Alors il s'entraîne alors à l'Olympia afin de mettre à l'épreuve sa santé physique. Les panneaux d'affichage de Paris annoncent déjà une série de concerts en mai 1992 au Palais Omnisports de Paris-Bercy.
Le succès de Montand au cinéma ne date pas des années 80, Christiane. Montand a commencé avec Les Portes de la Nuit, avec même Étoiles
ce
sans lumière.
Qui,
absolument. Mais c'est un artiste complet.
C'est tout fait.
On considère Montand comme un excellent acteur. Bon, ça peut se discuter. Mais il a marqué par sa présence les rôles qu'il composait au cinéma.
Oui.
Donc je pense que c'est un chanteur. Et quel chanteur ? Mais aussi un très bon comédien. Et puis, il a eu la chance de tourner avec des gants. On a parlé de George Cukor au cinéma aux États-Unis, mais c'est vrai que Claude Berry, c'est pas mal non plus.
On peut revenir deux minutes sur le succès quand même de Montand aux États-Unis. À l'époque, c'est quand même la mode d'aller se faire consacrer aux États-Unis. C'est-à-dire, il commence à avoir un succès en France, on part aux États-Unis. Et ce qui plaît beaucoup aux Américains, c'est quand même le French accent, l'accent français. Et on pense tout de suite à Maurice Chevalier, qui a exactement un anglais, ou dans son français, la même façon de prononcer les mots, à la fois en français donc et à la fois en anglais. Et je pense que c'est ce qui a contribué. Bien sûr, il n'y a pas que ça, mais qui a contribué quand même à cette French touche, comme on dit maintenant, et qui fait que Montand a fait un grand succès. Et bien sûr, quand il revient des États-Unis, les portes s'ouvrent encore plus facilement. Les carrières internationales sont quand même extraordinaires. On part pour se faire connaître, alors qu'on est déjà connu, et on revient à ce moment-là, si on revient des USA, on est encore mieux placé pour faire des succès et pour faire des grosses représentations.
Cela dit, le succès, en tout cas les standing ovations qu'il aura reçu lors de son premier séjour à New York, c'est bien précisément à New York, qui est une ville tout à fait à part des États-Unis, une ville plutôt intellectuelle, élitiste.
Sur Broadway, les théâtres
exactement.
Sont très
intellectuels. Je pense que s'il avait dû commencer par une des villes du sud des États-Unis, il n'a peut-être pas eu le même succès.
Je pense qu'en Louisiane, ça ne serait pas passé.
Voilà, exactement. Et puis, c'est vrai qu'il venait dans la lignée des Maurice Chevalier, des Louis Jourdan, des Leslie Caron, dont on a déjà parlé ici à ce micro. C'est vrai, c'est les États-Unis, les Américains, aime cette fameuse French touch dont tu parlais.
Et donc, si on revient à notre Yves Montand, Christiane, donc il est à Paris, il doit faire des grosses représentations, une série de concerts, et finalement...
Oui, en fait, cette série de concerts, en mai 1992, au Palais Omnisports de Paris-Bercy, est une première, je dirais, dans la carrière de Montand. En fait, la vie va en décider autrement. Yves Montand décède quelques mois avant le 9 novembre 1991, alors qu'il terminait le tournage d'IPS, L'île au pachyderme, de Jean-Jacques Benex. Et nous allons écouter la chansonnette.
Oui, alors ce fameux IP5, L'île au pachyderme de Jean-Jacques Benex, malheureusement, est-ce que c'est dû au décès de Montand ou pas? Mais ça n'a pas été un succès commercial.
On ne connaît pas, hein.
Qui tournait dans des conditions un petit peu difficiles.
Il a tourné dans des conditions relativement difficiles.
Climatiques difficiles.
Absolument, oui. Sous la pluie, dans le froid, etc. Ça n'a pas contribué à améliorer la santé de Montand, qui était déjà un petit peu chancelante. Notamment après le décès, une petite décennie auparavant, de Simone Signoret.
Nous écoutons un des grands classiques d'Yves Montand, la chansonnette.
1961.
La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu. Le pavé de ma rue était tout bête. Les refrains de Paris avaient pris le maquis. Les forains, l'Orphéon, la chanson de maquis. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Quand le vieux musicien dans le quartier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens. Les titis, les marquis, c'est parti mon kiki. La chansonnette après l'effet du tort, car tous les transistors soudain s'arrêtent. Sous le ciel de Paris, un accordéon joue la chanson de maquis comme avant le néon, cueilli par un flonflon, un têtard en blouson. D'un fronde violette va fleurir sa bardeau, car malgré son aigle au milieu du dos, le cœur est bon et sous ses cheveux gris, la chansonnette sourit. La la la, oh les cœurs, avec moi tous en cœur. La chansonnette, et passons la monnaie en garçon qui connaît. La chansonnette, il a fait sa moisson de refrains de Paris. Les forains, l'Orphéon, la chanson de maquis. Car on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Il faut du temps, c'est vrai, pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour comparer. Mais on trouve un beau jour sa chansonnette d'amour.
Eh bien, chers amis auditeurs, vous pourrez nous retrouver le mois prochain avec deux icônes de la chanson française, Juliette Gréco et Serge Gainsbourg. Juliette Gréco et Serge Gainsbourg, deux artistes issus de la scène des cabarets de la rive gauche, dont l'immense popularité demeure aujourd'hui intacte. Donc, absolument indispensable de nous retrouver avec Juliette Gréco et Serge Gainsbourg. Et puis, cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr.
Christiane Blain, merci.
Merci Christiane Blain.
Merci Gilles, merci Patrick.
Faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens. Les titis, les marquis, c'est parti mon kiki. La chansonnette après l'effet du tort, car tous les transistors soudain s'arrêtent. Sous le ciel de Paris, un accordéon joue la chanson de maquis comme avant le néon. cueilli par un flonflon, un têtard en blouson.